Bienvenue au Polysécur, cet épisode sur les humains. Je t'accompagne de Benoît, comment vas-tu?
Ça va bien. Un autre humain.
Oui, un autre humain. C'est pour des neurodivergents, ça peut être complexe des humains. Ça fait partie de ce qu'on aborde sur ce genre de choses-là. Cette fois-ci, tu m'as proposé loisir-voyage. Je trouve ça très intéressant parce que ça l'amène des zones de complexité et des zones de calme aussi dans différents aspects, dans différents éléments qui y sont associés. On va commencer par les voyages parce que c'est une zone de turbulence, juste pour faire un jeu de mots, et où on trouve des certains éléments comme ça. Toi, je sais que tu n'aimes pas beaucoup voyager. J'aime pas tant plus voyager, mais depuis le confinement, je voyage de façon assez substantielle. Pour le travail, pas pour me détendre, parce que pour me détendre, c'est pas ça que je fais. Moi, j'ai aucune détente associée dans le voyage, en tout cas, du moins dans les éléments comme ça. Fait qu'on va aborder ces éléments-là, justement, commencer par le voyage. Puis je vais commencer plus par toi que par moi, puisque voir comment toi tu l'abordes, puis ensuite, je vais amener mes propres expériences et mes faits cocasses qui sont à travers tout
ça. Ouais, tu vois, le voyage, c'est particulier parce que c'est probablement une des zones où. Le côté autiste doit se manifester le plus, là, du moins ma compréhension. Là, c'est-à-dire que pour moi, un voyage, c'est un changement de routine. Donc là, c'est plus difficile pour moi de faire face à ça. C'est pas parce que j'aime pas, je vais dire comme ça, c'est que j'aime être rendu à l'endroit, puis en profiter, puis encore là, il faut que je choisisse mes endroits, faire un voyage seulement pour l'agrément, un moment donné, il faut que j'aille visiter quelque chose d'historique, qui m'apprend quelque chose, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Je vais ronger mon frein, puis je serai pas heureux. Mais c'est surtout l'entre-deux. Toute la dynamique de, tu sais, faut que je me rende, puis il faut préparer tout ça. Tu sais, nécessairement, pour moi, c'est comme une zone de stress/anxiété, parce que là, c'est comme je sais que je m'en vais changer ma routine. Je sais que tout l'élément qui se trouve entre les deux, c'est un élément que je contrôle pas, qui est particulièrement anxiogène, puis tu sais, qui peut, en tout cas pour moi, il y a ben du monde qui sont capables de vivre avec ça sans problème. Moi, pour moi, c'est anxiogène parce que c'est qu'est-ce qui arrive si, puis là, évidemment, comme je fonctionne par scénario, ben là, tu sais, j'ai comme 60 000 scénarios de ça peut mal aller.
D'idées intrusives, là.
Exact. Tu sais, là, je pense, OK, ben ça, il y a 8 chemins possibles. Puis à partir de là, ben c'est 8 chemins possibles là. Puis ça va du genre, je vais me perdre, puis je vais me retrouver quelque part, genre en Alaska, puis ça n'aura pas de maudit bon sens. Ou jusqu'à, tu sais, j'ai perdu mes valises, puis là, ça gâche le début des vacances. Fait que, tu sais, toute cette pléiade d'éléments-là dans ma tête quand je commence à voyager. Puis, tu sais, c'est sûr que aussi ma première expérience de voyage n'a pas été super agréable, faisant en sorte que, tu sais, ça a peut-être pas contribué à me donner une bonne image du reste. Puis je vais le donner comme exemple parce que, tu sais, c'est un élément qui est probablement plus parlant. Donc, j'étais relativement jeune. Et mon anglais à l'époque était approximatif, je veux dire, je comprenais bien, mais tu sais, des fois, il ne fallait pas parler trop vite, et puis moi, mon anglais était moyen. Et puis, je m'en vais dans une conférence sur la sécurité, mais au lendemain du 11 septembre. Donc, on est à quelque chose comme c'était janvier, quelque chose comme ça, là, janvier ou février, tu sais, fait que ça ne faisait pas super longtemps. Et évidemment, tout le monde est sur les nerfs. L'aviation civile est sur les nerfs. Les douanes, c'est plus ce que c'était. Puis les agents de douane et les agents aux valises qui font les fouilles sont sur les dents, là, avec raison. Donc, je m'en vais là. Et là, c'est aux États-Unis. C'est à Washington, D.C. en plus. Donc, tu sais, il y a comme des mesures supplémentaires qui sont mises en place. Et je me tape un douanier américain qui vient du sud des États-Unis, probablement d'un bout dans l'Alabama. Je comprends rien de ce qu'il me dit ou à peu près. Là, je comprends peut-être genre 20% parce qu'il y a un accent tellement fort que. Fait que là, tu sais, évidemment, je panique. suer, ça va pas bien. Fait que là, évidemment, tu peux amener dans ta petite salle en arrière, te faire questionner plus longuement. Fait que là, c'est ça. Fait que, tu sais, contexte de circonstances, que finalement, ça s'est bien réglé, là. Tout le monde a fait comme, OK, là, tu sais, juste un problème de langage, puis tout est réglé, là. Puis quand ils ont vu le pedigree aussi, puis où je m'en allais, puis qu'est-ce que je faisais, t'es comme, ah, ben, tu sais, vous travaillez pour la sécurité, c'est une bonne chose, là. Fait que, mais ouais, c'est ça. Donc, première expérience qui a été somme toute stressante et apparemment que ce stress-là est devenu un trop et contribue au reste, faisant en sorte que, tu sais, pour moi, le voyage, c'est comme je dis tout le temps, c'est que c'est pas une fois rendu là-bas, c'est correct, mais c'est tout l'entre-deux qui pour moi est une source d'anxiété, de stress, là.
Ouais, effectivement, ben, j'ai pas eu j'ai eu des expériences avec aux douanes américaines notamment qui sont pas de cette nature-là, mais pas très loin. Peut-être pas autant traumatique que ça peut que tu le relates, mais quand même désagréable. Puis de ça arrive tout le fait de, puis là tu dis ces scénarios. Moi, c'est toujours l'anticipation de tout ce qui va se faire, tout ce qui arrive, d'un coup j'oublie. Puis là, ça l'amène beaucoup, beaucoup d'énergie cognitive à devoir dépenser, ouais, pour arriver à quelque chose. Puis d'ailleurs, puis là, je voyage beaucoup depuis le confinement, ironie. Quand les gens sont frustrés de ne pas avoir voyagé, moi, j'ai voyagé quand même. Puis justement, je trouve ça agréable parce qu'il n'y avait pas tant de gens que ça qui voyageaient. Ouais. Fait que c'était beaucoup plus souple et beaucoup plus dynamique comme moment, d'ailleurs. Et j'ai beaucoup aimé cette période de voyage-là parce qu'elle était beaucoup plus relaxe qu'elle est présentement à l'heure actuelle ou ce qui précédait le confinement. Puis je dirais même maintenant, les gens sont un peu plus énervés qu'ils l'étaient avant. Donc, ça l'amène à des moments de stress plus grands pour les autres. Et incidemment, ben, je l'absorbe aussi, ce stress-là. Puis j'anticipe des choses négatives, un peu comme tu mentionnais d'ailleurs. Et là, ça arrive, là, tu sais, comme d'oublier. Ça, je trouve ça terrible parce que de tous les voyages, j'ai toujours peur d'oublier au départ. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose quand je reviens. C'est-à-dire, est-ce que j'ai oublié mes affaires dans mon logement? Est-ce que c'est bien fait? D'un coup que mon logement n'est pas prêt, qu'est-ce que je vais faire? Et toutes ces histoires-là ou ces pensées intrusives-là s'invitent au party. Ils gâchent un peu le moment préalable au voyage et jusqu'au moment où on doit revenir, justement. Puis une fois que tu es rendu là-bas, tu t'es installé, ça va bien. Là. Je vis généralement assez bien ces moments-là. Quoi qu'encore là, la maîtrise de la langue, des fois, peut poser des soucis, surtout dépendant des pays. J'ai déjà été dans des pays où ni l'anglais ni le français étaient la langue première. Ça peut présenter des défis de compréhension. Les gens parlent, t'es pas sûr. Puis d'ailleurs, j'ai des anecdotes de vol, j'en ai plein, là, puis mes enfants vont rire parce qu'ils sont toujours très, très, très drôles dans ces moments-là. On était dans un pays, puis j'ai juste comme par bienveillance, c'était de juste faire le salut dans la langue locale, c'est juste de montrer que t'es pas juste un maudit touriste qui est là. Et je me fais répondre justement dans la langue locale, mais de façon, tu sais, où là, cette personne n'avait pas saisi que j'avais un très fort accent, ou whatever ce qui s'est passé, où j'ai trop bien prononcé cette fois-là cette salutation-là dans la langue, qu'elle a commencé à me parler dans la langue, là, j'ai comme figé comme un chevreuil. Puis là, j'ai comme, non, l'intention, c'était pas ça. L'intention, c'était juste d'être gentil et de montrer que je suis pas juste un bouffon. Puis non, ça servirait contre moi cette fois-là. Là, je suis beaucoup plus nerveux maintenant, notamment d'essayer de trop bien parler la langue pour avoir l'air de pas avoir l'air d'un maudit touriste. C'est là que je me suis fait desservir. Ça m'a desservi un peu, mais ça fait partie des années-là. Puis là, je fiche comme un chevreuil, puis ça me prend un gros 3-4 secondes avant de retomber sur mes pieds, puis ensuite de dire, oh non, je parle pas la langue, je m'excuse. Là, puis la personne a basculé en anglais ensuite, justement pour m'aider à comprendre ce qui venait de se passer devant moi, puis de tout. Fait que ça fait partie de ce genre de choses-là, mais tu sais, c'est tout dans des stratégies qui pour atténuer l'anxiété, c'est très anxiogène, comme tu mentionnais.
Ouais.
Puis je suis pas suspect de l'autisme, fait que j'ai pas ces éléments-là, mais je dois avoir quand même un certain degré de prévisibilité devant moi de ce que les choses vont se passer, puis d'être capable d'avoir déjà des solutions préfaites pour des situations potentielles. Fait que tout est déjà construit. L'avantage de voyager beaucoup, comme je fais cette ancienne, depuis confinement, essentiellement. C'est que j'ai été capable de me bâtir des stratégies, des raccourcis ou des éléments qui atténuent l'anxiété qui est associée à ce genre de choses-là. Donc, Ça me donne un certain degré d'assurance quand je me déplace, notamment dans les aéroports, ce qui donne des situations assez cocasses aussi, puisque j'ai l'air d'être au-dessus de mes affaires, vraiment beaucoup, quand dans les faits, je ne suis pas tant au-dessus de mes affaires que ça. Parce que c'est juste, je me suis développé des stratégies et ça m'a beaucoup vexé pendant le... Puis encore maintenant, surtout à Montréal et Toronto, les aéroports, ils changent le parcours des douanes, mais à chaque fois. Ouais. Tu sais, je voyage plusieurs fois par année et à chaque fois, le parcours des douanes change. C'est-à-dire, là, moi, je te vois quand même un pas pire voyageur. J'ai des personnes qui voyagent genre une fois ou trois ans. Le parcours, c'est comment ils font, ces gens-là? Et en plus, là, ça l'amène le fait que moi, je suis surpréparé. Fait que ça l'amène un degré de frustration face aux gens qui sont sous-préparés quand dans les voyages, qui sont toujours perdus. Là, ça m'amène de la frustration. Des fois, c'est perceptible par les autres, cette frustration-là, parce que je me déplace vite, parce que je marche au naturel. Même en dehors des voyages, je marche vite. Fait que dans un aéroport, c'est sûr, je vais marcher vite aussi. Je sais où je m'en vais, je sais déjà mes choses. Je suis déjà préparé, fait que j'ai pas d'hésitation, j'ai pas de grande réflexion. Je connais déjà l'aéroport, je connais déjà les lieux, je connais déjà ma porte, je connais déjà comment le rituel. Je maîtrise les rituels. C'est ça aussi, c'est intéressant. Tous les rituels associés, disons, au voyage, notamment dans les aéroports, les premiers coups, t'es un peu insécure, puis là, t'es pas bien, puis là, t'observes, puis t'as peur de faire des erreurs, puis ça m'habite énormément. Puis une fois que tu as un peu trop commencé à voyager, ben là je deviens à l'inverse. Là, je suis trop confiant, justement, parce que là, je connais les rituels, je connais les chemins, je connais toutes les affaires. Puis je suis même mieux que les personnes qui travaillent dans les aéroports à certains égards. Puis ça donne des éléments comme ça. Puis en plus, je comptais l'anecdote d'un monsieur qui s'était senti bousculé par mon pas rapide, parce que je savais où je m'en allais, tout ça. Puis lui était d'un tempérament beaucoup plus calme ou beaucoup plus relax que moi. Et lui, sur le pont entre l'aéroport et l'avion, il prenait tout l'espace. Puis pourquoi tu fais ça? C'est quoi l'idée? Et moi, j'ai essayé de le dépasser. Et il s'est senti agressé du fait que j'essaie de le dépasser avec un pas rapide. Et dès là, il a comme surréagi à cette situation. Il a comme rouspété beaucoup contre moi. Là, si ce monsieur-là écoute cet épisode-là, ben, je m'excuse, monsieur, c'était pas voulu comme ça, mais c'est la façon que je fais ça de aussi. Puis c'est l'autre côté de ma personnalité, c'est d'être toujours très conscient de mon environnement et toujours faire attention aux ordres dans mon environnement. Puis ça, c'est dans un aéroport, c'est complexe parce que tu as beaucoup de gens. Donc, c'est très, très énergivore aussi. Fait que ça mène dans ce contexte. Moi, cet individu-là m'a froissé parce qu'il était clairement pas dans une position à conscient de son environnement. Lui était centré sur lui-même et je l'ai dérangé dans son lui-même à ce moment-là parce que moi, je marchais vite et ça faisait ce genre de choses. Fait que c'est des éléments comme ça qui caractérisent mes façons de voyager. Donc, c'est pour ça que je suis bien maintenant dans les voyages parce que je suis capable de... J'ai mes raccourcis, j'ai mes plans de fête, j'ai ces cartes-là dans ma tête qui sont faites et dans lesquelles j'ai peu besoin d'interaction. Ça aussi, c'est intéressant parce que j'ai peu besoin d'interaction humaine. Je fais juste avec des hachements de tâches, je suis capable de me débrouiller relativement parce que je comprends ce qui m'est dit. Je fais juste comme acquiescer ce qui est dit puis d'agir en conséquence sans avoir à interagir avec la personne avec qui ça. Exception douanier américain, eux, t'obligent à parler. Fait que tu as eu une expérience un peu moins intéressante dans ce contexte du 11 septembre. Effectivement, il y avait. Puis ça devait être assez funky. Je ne sais pas comment j'aurais filé voyager à ce moment-là. Mais les douaniers américains sont très aiment beaucoup la conversation. C'est probablement dans les seuls qui aiment vraiment beaucoup parler.
Ça leur permet de saisir la personne, c'est ça?
Oui, c'est leur stratégie. Puis, même en Israël, j'ai pas eu de communication qui, pourtant, eux, ont beaucoup de démarches de saisir les gens pour repérer en amont le plus rapidement possible quelqu'un qui a une intention néfaste, qu'une vouloir faire causer des soucis. Fait que même eux n'ont pas ce genre d'interaction avec les... En tout cas, moi, ce que j'ai eu comme interaction en Israël était plutôt limité. Ils m'ont demandé si la personne qui m'accompagnait était ma conjointe. On a répondu oui. où on a répondu quelque chose que la personne avait trouvé drôle. Fait qu'elle nous a juste comme laissé ça, puis on n'a pas été réintercepté par aucune autre personne entre le fait d'aller jusqu'à notre gate. Là. Fait que même eux autres n'aiment pas tant parler aux gens. Là. Mais en général, c'est ça, il y a beaucoup de limitations de communication parce que la préparation m'amène dans une zone où de contrôle. Tu parlais justement de perdre le contrôle. C'est de m'amener où je contrôle ma situation dans la mesure où je suis capable. L'avion, j'ai été capable de faire abstraction. Quand les premières fois que je prenais l'avion, j'étais comme la plupart des gens, pas super confortable. Vraiment très, très mal à l'aise. T'as pas le contrôle sur rien, tout ça. À ce que, un moment donné, j'arrive à un point de rupture, puis maintenant, de toute façon, tu peux pas rien y faire. Fait que ça me stresse. L'avion elle-même ne me stresse plus parce que j'ai frappé un seuil où j'ai littéralement abandonné ce contrôle-là. Ce qui est particulier aussi d'abandonner le contrôle. Je ne sais pas si toi, c'est des situations dans lesquelles tu es déjà.
Mais tu vois, ta notion de préparation, là, tu sais, c'est sûr que maintenant aussi, j'en ai plus qu'auparavant. Puis tu vois, on parle d'anecdotes. J'ai une anecdote qui, moi, tu sais, a fait en sorte que ça aussi, là, ça a été l'élément où j'ai fait OK, je peux pas me fier aux autres. Puis je t'explique, tu sais, encore une fois, j'étais relativement jeune. On m'invite à aller donner une conférence au Luxembourg. Donc, j'ai invité par une banque du Luxembourg pour aller donner une conférence, grosse conférence. Je suis comme, wow, OK, c'est cool, tu sais, il n'y a pas de problème, je vais être là. On me dit essentiellement, tu sais, bon, ben, voici votre billet d'avion. Par contre, vous devriez vous occuper pour le train, puis, ben, il y a quelqu'un qui va vous ramasser au train. Donc, juste nous dire quand est-ce que, tu sais, vous prenez le train, etc. Fait que, tu sais, pour se rendre au Luxembourg, c'est Montréal, Paris, tu prends le train jusqu'au Luxembourg. Donc, fait que là, moi, je communique ma date de train, l'heure du train, tout le kit. Fait que là, j'arrive là, il n'y a personne. Fait que là, moi, je suis supposé avoir, c'est un dimanche, je suis supposé avoir quelqu'un qui est là, puis il n'y a personne. Fait que là, je suis comme, OK, j'écris, je téléphone, ça ne répond pas parce que c'est des numéros de bureau, c'est le dimanche, donc tout le monde est fermé. Fait que là, je fais comme, bon, ben là, la seule chose que j'ai, c'est un numéro de en fait, l'endroit où se fait la conférence, puis je vois que ça, c'est ouvert. Fait que là, je prends le taxi, je m'en vais là. Eux finissent par contacter la personne qui était responsable de l'événement, qui là, remonte à la personne qui m'avait invité. Finalement, il y avait eu comme un oubli, il m'avait juste oublié. Moi, j'avais aucune idée c'était où je m'en allais, dans quel hôtel, quoi que ce soit. Là, j'étais rendu, bon, ben là, je vais aller me prendre un hôtel, puis tu sais, ils se débrouilleront pour le payer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, bref, tu sais. Fait que là, ils ont fini par retrouver la personne. La personne était tombée malade, elle avait envoyé un message, elle n'avait pas eu de relève. Tu sais, genre, contexte de circonstances vraiment plate. Mais tout ça, tu sais, moi, là, on s'entend, là, je dors pas en avion, en plus, ça, c'est un élément, tu sais, parce que je mesure 6 et 2, tu sais, j'ai pas de fun, là, tu sais.
non, je suis dans la même zone que toi, là. Moi, voyager en économie, c'est impossible. J'ai heureusement maintenant le luxe de pas pu voyager en économie, mais moi, surtout que les avions, les sièges ont rapetissé.
Ouais,
j'ai les genoux à côté sur le siège en avant. Oublie ça, je peux pas dormir. Je suis vraiment pas capable c'est impossible. Fait que, surtout pour un vol transatlantique comme ça, souvent, c'est un vol de nuit. Fait que t'arrives tout mêlé l'autre côté. Là.
Ouais, c'est ça. Fait que là, j'avais pas dormi. Le train, en plus, j'étais vidé. Là, je suis... fait que tu vois, maintenant, quand je voyage, j'ai un degré de préparation supplémentaire où je me dis, bon, les humains dans l'eau, je peux pas leur faire confiance, puis c'est pas parce que c'est des gens qui sont fondamentalement méchants, là, c'est juste, voici ce qui s'est passé, c'est un miscommunication là, dans ce cas-ci, là, c'est juste un problème d'alignement, puis probablement de date, probablement que l'autre personne a pensé que j'arrivais le lundi ou quoi que ce soit, t'sais. Puis, ben là, tu vois, maintenant, ben, autre traumatisme qui fait ça, je ne fais plus confiance aux éventuels loupes humaines dans l'eau, puis j'arrive un peu plus préparé, là. Mais, tu sais, ce qui n'empêche pas que, tu sais, quand même du stress et tout ça.
Oui, ben ça, mais ça réduit énormément le stress. Ça réduit. Oui, j'ai eu des situations comme ça où il y avait des deals qui avaient été faits avec les soit des organisations, soit d'autres personnes, lesquelles n'ont pas été répondues. À une époque où là, je suis chanceux parce que là, on a les cellulaires, on est tout le temps branché, on a toute une capacité ouais. de faire des choses. À des époques où c'était un peu moins comme ça, puis oui, c'est un peu plus raide, ce qui amène toujours avoir un plan B, toujours mesurer les choses, toujours s'assurer qu'on est capable de se revirer de bord, s'assurer que les situations soient capables de ça. Puis ça l'oblige à un certain moment de devoir demander de l'aide aussi autour de toi. Là. Ça, chose que je suis pas super à l'aise non plus à faire, mais dans certains cas, ça m'a obligé à chercher des repères autour qui... Maintenant, tout est tout préparé. Fait que je connais déjà mes repères en avance. Puis là, c'est le fun maintenant que les cellulaires, on a des outils qui sont à notre disposition pour se retourner de bord lors d'une situation inattendue, ce qui est un aide, ce qui est une réduction de stress énorme pour moi, tu sais, du moins, d'avoir toujours ce filet de sécurité-là qui m'accompagne tout le temps, qui est mon cellulaire, qui me permet de communiquer avec les hôtels, de communiquer avec les choses, de trouver. Mais même encore maintenant, les rituels d'hôtels m'agacent parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, sont tous un peu différents. Ils veulent tous des informations différentes. Alex, quand tu prends dans les grandes chaînes, c'est standard, mais c'est pas tout le temps dans les grandes chaînes, tout dépendant où je vais. Fait que des fois, il y a des surprises, des fois, ça marche pas, des fois, ils trouvent pas mon nom, les choses, oups, il y a eu comme un glitch, justement, comme tu dis. Fait que là, t'es comme, ah! ça demande beaucoup de, le point, puis dans le traumatisme, c'est parce que ça demande beaucoup d'énergie compenser ce genre d'éléments-là. Et j'essaie d'éviter de dépenser ce genre d'énergie-là, surtout dans l'action, surtout quand tu arrives, là, tu parles de vol transcontinental, il y a plusieurs éléments comme ça, où tu sais, j'ai eu à attendre dans Charles de Gaulle, TGV, dans une gare où il fait froid, parce que les premières fois que tu sais pas qu'en France, notamment, ils chauffent pas les endroits comme ça, contrairement à ce qu'on a ici, c'est des choses que quand tu sais pas, tu es un peu pris par surprise. Là, t'es pas habillé pour ça, parce que tu présumes que c'est chauffé comme ici, mais que les autres ne font pas ça. C'est d'autres rituels qui sont là-bas que tu apprends. Là, t'as pas dormi dans l'avion, t'as fait le vol de nuit, t'arrives, là, faut te prendre le TGV, t'attends debout, pas bien. En tout cas, c'est des situations comme ça qui me sont arrivées, qui amènent à des erreurs dans lesquelles tu rages contre toi-même parce que tu as fait une erreur, mais tu n'avais pas tout à fait ton esprit parce que tu étais fatigué, parce que le vol est exigeant, parce que ça demande des choses. Des fois, tu n'es pas concentré. Ça l'amène des choses et beaucoup de frustration et beaucoup d'énergie dépensée, puis justement d'arriver à ça. Fait que, voyager pour le plaisir, pour moi, c'est une notion qui n'existe pas. Il y a une raison réelle. T'sais, je vais pas relaxer en voyage. C'est pas là ma zone. Je vais en profiter comme un peu ce que tu fais aussi. C'est, je vais visiter.
Ouais.
Mais prendre l'avion pour aller dans le sud, là, ça me parle pas. Là, mais zéro. Là. C'est l'énergie que ça va me dépendre d'utiliser. Puis là, ça va gaspiller le
temps de repos là-bas, là, c'est ça. C'est, j'arrive puis je suis fatigué. J'arrive puis mon voyage m'a épuisé. Les gens reviennent généralement de vacances. Ah, j'ai été dans le sud, je suis plein d'énergie. Moi, je suis comme OK. Moi, j'y vais. Là, tu sais, le stress là, tombe rendu là-bas. Là, tu sais, oui, effectivement, je suis capable de relâcher. T'sais, souvent, je vois essentiellement lire là, quand je vois là. Ouais. Pour moi, c'est un moment de lecture. Là, c'est juste que tu sais, au lieu d'être dans ma bibliothèque, ben, c'est ailleurs. Puis là, après ça, c'est le retour. Puis là, c'est l'autre stress. C'est que là, je reviens, je suis sénère, tu sais. Puis là, je rentre lundi à job, tu sais. Je suis pas nécessairement dans mon élément relax, là, tu sais. Fait que, tu sais, hey, puis c'était-tu le fun? C'était le fun le temps que j'étais là, tu sais. Puis, tu sais, l'entre-deux, là, on s'en reparlera. Puis, tu sais, oui, OK, là, je peux faire ça, mettons, tu sais, un 5 jours, c'est jouable. Mais si je fais un 5 jours de plage, lecture, puis que, tu sais, je suis ailleurs, puis je ne vais même pas voir, tu sais, d'éléments, tu sais, culturels, historiques, là, je ne vais pas nier, non, tu sais, où ça ne marchera pas. Pour moi, j'ai besoin de voir, tu sais, la nature, tu sais, comment ils vivent sur place, des choses comme ça, tu sais. Tu sais, comme il y a des voyages que j'aimerais assurément faire. Mais par exemple, tu sais, j'ai toujours dit, j'aimerais ça faire un moment donné, un voyage, tu sais, type historique sur, je sais pas, moi, les plus grands châteaux en Europe, tu sais, puis comprendre l'histoire de ces châteaux-là, ou un voyage sur, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, aller voir les endroits qui ont été des pivots pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais tu sais, pas nécessairement quelque chose qui plaît à tout le monde non plus, tu sais, puis c'est pas nécessairement des trucs qui sont abordables. Puis, tu sais, encore une fois, là, tu sais, faire ça, je sais que je m'embarque dans une affaire de 2 mois parce que, tu sais, justement, il faut que je me déplace d'une place à l'autre. Tu sais, ça va me prendre un moment de pivot pour dire je vais récupérer du transit, certainement.
Ouais, l'énergie que ça exige autour de ça, là, effectivement, c'est, ça demande ça. Puis, tu sais, moi, je le compense beaucoup en préparation. Les premières fois que j'avais, parce que essentiellement, j'ai vraiment commencé à beaucoup voyager durant le confinement. Fait que les premières fois, puis là, ça m'avait donné la chance d'avoir un contexte où il y avait peu de gens. Donc, là, il y avait beaucoup moins de place aux choses, étant donné que les exigences sanitaires de ce moment-là nous demandaient une préparation en amont. Ça m'a pris j'ai pris des habitudes de préparation qui sont conséquentes à ça, que j'ai conservées jusqu'à maintenant. C'est-à-dire de savoir où je m'en vais, les dates exactes, les transports, tout est déjà attaché en amont. C'est très rare que je vais improviser sur place. Je vais improviser quand je vais avoir une chose qui a raté. Là. C'est comme ça m'est déjà arrivé. J'ai des anecdotes où je me suis trompé de TGV notamment. Puis je devais aller vers Rennes et je me suis ramassé vers Marseille. Pour ceux qui savent la direction des deux, ça n'a aucun lien commun. Donc, moi, je m'en ai vraiment pas à la bonne place. Donc, d'arriver à ces choses-là, mais le stress que tout ça a généré était quand même assez substantiel, même si globalement, de l'extérieur, ça a été super bien géré. Le stress que ça l'a demandé, elle a été quand même très, très substantielle et ça m'a pris un 24 heures à digérer cet événement-là. Mmh. Point de vue intérieur, de juste de laisser reposer l'énervement, le stress que ça avait généré, tout ce que ça avait fait, même si j'ai géré comme un champion là, à bien des égards, mais ça l'a coûté très cher aussi de gérer ça comme un champion. Mais c'est ça, fait que ces habitudes-là, tous mes papiers sont prêts, tout est fait, je m'assure que les hôtels sont corrects, même si ça m'irrite, je mentionnais que les rituels d'hôtels sont jamais les mêmes, même si ça m'irrite, même si dans certains lieux, ils vont te traiter comme si comme tu comprends pas, ils te traitent comme de la merde. Ben oui, mais là, ton rituel, il est non standard avec tout ce que je vois, ailleurs. Pourquoi tu me fais souffrir comme ça? En plus, ça me fait sentir comme de la merde parce que j'ai pas compris ton rituel, que j'ai pas réussi à analyser. Puis tu sais, je vais être dans les files d'attente notamment, puis j'observe beaucoup dans les files d'attente pour anticiper le rituel qui m'est demandé ensuite pour le réussir du premier coup. Puis ça, c'est important. Pour bien des gens, ça doit être complètement farfelu, mais pour moi, c'est important de réussir le rituel du premier coup. Ouais. Parce que le coup de friction qui est associé à ne pas le réussir, pour moi, était quand même assez grand.
Ça vient puiser dans ta jauge, c'est ça, tu sais. Ouais. Je parle souvent de la jauge d'énergie, tu sais. Fait que cette jauge-là, tu sais, à un moment donné, elle s'épuise vite à chaque fois qu'il y a des anicroches, tu sais, où il y a un élément qui vient quand tu parles de friction, là. Déjà, tu sais, juste le processus standard vient puiser dans cette jauge-là. Puis là, tout d'un coup, oups, là, t'en rajoutes. Fait que t'arrives là, tu sais, s'il y a eu beaucoup de friction, moi, j'arrive là, je suis complètement vanné, là. Puis tu sais, ça. Je pourrais juste rester dans la chambre d'hôtel 2 jours, le temps que je m'en remette, là, tu sais, genre, donnez-moi mon repas, je vais juste écouter mes petites affaires, le temps que c'est comme ça vient lourd à porter.
Oui, absolument. Puis c'est vrai, j'avais jamais analysé sous l'angle de la batterie ou de la jauge. Effectivement, vu comme ça, effectivement, c'est un axe que j'avais pas fait. Puis oui, celle-ci, elle est pour les introvertis, elle est très importante parce qu'à chaque interaction, elle coûte.
Ouais.
Puis c'est pour ça que justement, comme je veux pas que ça coûte, puis je regarde dans mon quotidien, il est aussi rodé de façon à ce que j'ai le moins souvent possible de décisions à prendre. Parce que à chaque fois que je prends une décision, ça coûte l'énergie et j'ai un nombre limité de cette énergie-là. Et si j'arrive trop vite à la fin de la journée, j'ai tout dépensé, je suis foutu parce que ma soirée elle va être gâchée. Et j'essaie d'économiser ma jauge justement pour arriver à ce qu'en soirée je fais ça, mais en voyage, c'est encore pire parce que je vais me foirer à l'hôtel à bout de souffle mental. C'est vrai, c'est intéressant, je ne l'avais jamais vu, mais oui. C'est pour ça aussi que j'ai des rituels. C'est pour ça que j'ai déjà tous des sacs préfaits, toutes mes charges avec mes cartes, c'est déjà préfait. C'est marqué dessus. Je me fais juste le mettre dans ma valise. J'ai pas à réfléchir. Ma trousse de toilette, la même chose. J'en ai une qui est juste faite. Je vais juste la prendre, je la mettre dans ma valise tout le temps. Parce que là, je voyage quand même assez souvent. Fait que assez pour qu'elle soit toujours faite. Je ne défais même pas. Je vais juste la prendre. Je la mets sa tablette. Puis que je reprends ensuite. Puis je la remets dans ma valise. Puis c'est fait comme ça. T'sais, ça va même jusqu'au point où j'ai commencé à m'acheter des choses de compression pour le linge. Et de façon à ce que c'est toutes des choses qui sont faites pour chaque journée. Fait que chaque journée, j'ai mon chose déjà préfaite. Mon linge, tout est déjà tout préparé dans sa petite pochette de compression. Puis juste les mettre dans ma valise. Fait que. Je compte mes pochettes, je sais que j'ai assez de linge, je sais que j'en raterai pas. Ça, parce que c'est fou. Le stress de penser que je pourrais oublier quelque chose. Le nombre de fois que j'ai vérifié, genre 10 fois avant de partir pour l'aéroport, que j'ai pas oublié mon passeport. Parce que ça, c'est la pire affaire. Tu oublies ton passeport, tu peux pas voyager. Une fois de revérifier, de remettre, rituel, toujours même plan.
Puis à chaque fois que tu vérifies, c'est ça, on parle de la batterie. Là, tu t'en vas chercher une charge, tu t'en vas chercher un morceau de ta batterie. Là, tout ça, là, quand tu parles justement du nombre de décisions, on est là. Puis d'ailleurs, à la base, le cerveau est capable de prendre un certain nombre de décisions par jour. Puis là, tu t'en vas puiser là-dedans. Tu t'en vas puiser là-dedans tout le temps. Puis si tu arrives, c'est complètement. T'sais. Souvent, moi, j'arrive, j'ai pas dormi. Fait que je suis brûlé physiquement, je suis brûlé mentalement. Je suis au bout, je suis en burn-out. Là. Fait que, non, c'est pas. Puis, tu sais, encore une fois, tu sais, c'est pas parce que. Je vais dire ça, je dis ça souvent, cette phrase-là. J'aimerais ça aimer ça. J'aimerais ça aimer ça. Parce que, tu sais, effectivement, en voyage, j'ai vu des belles choses, j'ai vu des affaires, tu sais, qui vont me rester marquantes toute ma vie, mais le coût que ça me demande pour faire ça, tellement élevé que je suis comme, oh boy, okay, j'ai-tu vraiment besoin, tu sais?
ça, je comprends bien, puis c'est pour ça que j'ai réussi mécaniser ou automatiser un peu une partie du processus, justement pour réduire le coût à un niveau où ça, je peux le faire plusieurs fois par année. Parce que le bénéfice que j'en ai, je l'explique, je l'ai écrit souvent sur LinkedIn notamment, à chaque fois que je reviens de ces événements-là, mon bénéfice intellectuel, l'apprentissage, tout ça est en tout cas du moins encore suffisamment grand pour valoir le coût, mais j'ai réduit le coût. J'ai compressé le coût le plus que je pouvais parce que le faire comme je fais là, si je n'étais pas capable de compresser le coût, je ne serais pas. Puis j'avais même remarqué, puis un des rituels que j'ai en voyage, c'est que j'enregistre des capsules vidéo pour ma blonde, puisqu'on n'est jamais pas sur le même fuseau horaire, fait que c'est plus difficile de communiquer de façon synchrone, fait qu'on fait des communications asynchrones, donc c'est ça. Et ça donne un moment d'introspection. Ça m'a beaucoup aidé justement à passer à travers ces choses-là, à améliorer ma façon de voyager. Et de comprendre mes éléments comme ça. Mais ce que j'ai constaté en tant au début confinement à maintenant, donc ça fait 4 ans, j'avais comme un surplus d'énergie de voyage, que je pourrais appeler comme ça, au début du confinement. Et en cours de chemin, en cours jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte, à un moment donné, je me suis épuisé. Puis ça, c'est une des choses, je le vois mal quand je m'épuise. Puis ça, c'est une des choses que je dois travailler notamment. De voir que tranquillement, l'épuisement est là et que dans les premiers temps, j'étais juste en surplus d'énergie. Je n'avais trop parce que je n'avais jamais dépensé ou je n'avais pas de ça. Et là, je me retrouve en déficit. Et quand tu tombes en déficit de façon chronique, là, parce que c'est ça qui est arrivé en 2023, d'un moment donné, j'ai comme tombé. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'étais bien, puis j'avais réussi, puis ça. Puis là, j'ai tombé un coup. Pour voir que j'avais pas suffisamment automatisé mes choses. J'avais pas suffisamment, puis je dépensais encore trop d'énergie pour mon réel. Fait que là, j'avais commencé à j'avais dépensé tout le surplus, et là, je commençais à embarquer dans du régulier. Et là, quand j'ai commencé à embarquer dans le régulier, là, ça a été moins drôle. Puis là, ça rejoint un peu ce que tu dis, parce que quand t'es dans ton régulier, là, c'est toute ton énergie, c'est ma capacité de travailler, c'est ma capacité de me concentrer, c'est ma capacité d'apprendre, c'est ma capacité aussi de profiter du voyage en question, parce que moi, j'ai fait des voyages beaucoup pour apprendre. Donc, si je ne suis pas capable d'apprendre dans mon voyage, ben mon voyage est perdu.
Ouais, c'est ça.
J'ai zéro bénéfice parce que je suis fermé mentalement. Je ne suis pas capable d'accueillir les gens. Je ne suis pas capable d'accueillir le contenu. Je ne suis pas capable d'accueillir tout ce que le voyage peut m'apporter. Donc, c'est arrivé comme ça. J'ai repris. Puis là, depuis, j'ai remodifié des nouvelles affaires. Puis notamment, pour revenir sur mes capsules, m'ont permis de faire beaucoup d'introspection puis de voir. Puis quand j'ai tombé, justement, d'être capable de repérer et justement dans ces dialogues-là, de réussir à ramener un peu de mécanisation puis de réduire la pression qui est associée à ce genre de choses-là. Puis j'étais de nouveau un peu plus agréable pendant que je me déplace dans les aéroports. Mais il y a un moment, puis je m'en suis rendu compte à posteriori, où j'étais franchement très désagréable face aux autres humains qui ne respectaient pas les protocoles. Là, je devenais irritable, je devenais très, très rapidement dans les aéroports. Même, dans certains cas, je soupirais de façon audible. Quand ça m'énervait, quelqu'un qui m'était c'était quasiment pratiquement ça. Ça m'a permis aussi de prendre un pas de recul puis de constater, de changer mes structures. Ce que j'ai fait en 2024, normalement, là, j'ai des temps de tampon, comme tu dis, des pivots pour ça. Quand j'ai des éléments comme ça, ben là, maintenant, j'ai des pivots, ce que je ne faisais pas avant. Puis je me suis rendu compte que ça me coûtait très cher. Donc là, je me suis mis des pivots. Notamment, si je prends l'exemple de cette année, c'est quand j'arrive à Charles de Gaulle, je couche une nuit à Charles de Gaulle. Parce que l'avion, elle ne sait pas quelle heure va arriver. Je ne veux pas attendre 6 heures fatigué TGV pour me rendre à ma destination. Fait que j'ai décidé maintenant. Puis j'ai les moyens de le faire aussi. Puis ça, c'est peut-être pas donné à tout le monde. De faire que ma première nuit est à CDG, juste pour laisser le temps de décompresser, de ramener la nuit de sommeil qui a été perdue, de me réénergiser, justement, remettre la jauge à bonne capacité. Parce que si je fais pas ça, puis je passe directement dans le TGV après, puis ce que je faisais, ben je venais tomber dans le négatif.
Ouais.
Ça, ouais. C'est pas bon. C'est pas bon, ça.
Pas bon pour personne, puis c'est parce que tu nuis à ta performance sur place, tu sais, ce que t'as à faire, tu sais, rencontrer des gens, etc., tu sais.
Oui, puis c'est ça. Rencontrer des gens, ça prend beaucoup d'énergie, moi, dans mon cas. Donc, si j'ai pas de réserve pour faire ça, je deviens une personne beaucoup moins agréable, je deviens une personne beaucoup moins réceptive et je ne suis pas capable de bâtir les ponts que je serais censé être capable de faire dans ce genre de circonstances-là. Là, je suis content parce que cette année, justement, j'ai changé la stratégie et ça porte fruit, d'ailleurs. Puis, tu sais, pour ceux qui veulent s'inspirer de ma stratégie, ben ça porte fruit parce que le dernier voyage que j'ai fait, justement, back-to-back, là, j'étais en France et aux États-Unis en très peu de temps entre les deux. J'ai été capable de faire les deux avec zéro trace d'épuisement ou zéro trace de où ma jauge était à terre. Où j'étais capable d'être dans les deux cas. Fait que cette stratégie-là fonctionne, dans mon cas, fonctionne très bien et donne des résultats beaucoup plus probants que ce que j'avais. Là, j'avais de l'air en 2023 où, à certains moments donné, j'étais un peu plus. Certains humains ont ressenti mon énergie négative de façon très importante, notamment quand je parlais de monsieur sur la chose ou ceux qui m'ont entendu soupirer ou juste de rouler des yeux parce que, qu'est-ce que tu fais là dans l'aéroport à zigonner comme tu fais là, tu sais, ou à arrêter ou à tout moment. En tout cas, bref, ce genre de choses-là. On va basculer à l'autre sujet, parce que je pense que celui-là, on l'a déjà bien fait, on reviendra de toute façon, parce que moi, j'ai tellement d'anecdotes en voyage. Les loisirs, parce que les loisirs, c'est le côté peut-être moins turbulent, puis beaucoup plus intéressant, puis toi, t'as, en tout cas, mieux que moi d'ailleurs, utiliser tes loisirs pour être une source justement de réénergiser, de te recentrer sur toi-même, puis je vais te laisser...
Ouais, ben, tu sais, là, je vais avoir l'air du cliché parfait, là, du geek nerd, là. Clairement, moi, j'ai des loisirs qui sont très geeky ou nerdy. Tu sais, moi, je suis un joueur de jeux de rôle depuis des années, là. J'ai commencé ça au début de l'adolescence et puis ça en fait partie. Pour moi, ça, c'est un élément, tu sais, que je suis capable d'avoir des gens que j'aime autour de la table, donc c'est un moyen de socialiser, c'est un moyen, c'est probablement par là aussi que j'ai appris beaucoup à développer mon leadership, à développer ma capacité à raconter des histoires aux gens, tu sais, puis à faire en sorte que ça leur faire imaginer un avenir possible ou un futur possible, donc nécessairement des outils utiles pour les activités de leadership. Jeux vidéo et récemment, quand même assez récemment, je dirais à peu près de 3 ans, quand j'étais enfant, je m'amusais beaucoup avec les Legos et j'ai commencé à en refaire. Et c'est quelqu'un qui m'a offert un cadeau un peu comme ça, puis j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, j'aimais ça faire des Lego. » Puis je suis retourné là-dedans, puis je me suis surpris à tomber dans une zone où j'étais d'un calme assez magique, où là, ma tête, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, tu sais, la tête qui spin, qui se questionne tout le temps, tu sais, qui est tout le temps en mode de scénario, si ça. La tête était au ralenti. J'avais une zone quasiment zen et j'ai commencé à me questionner là-dessus, parler à neuropsy. Puis, ben, en fait, c'est documenté cet élément-là que faire des exercices du genre, un casse-tête, par exemple, un Lego, où il y a une certaine forme de mouvement, où il y a une certaine forme de réflexion, mais c'est pas tant compliqué. Tu sais, fait que ça fait en sorte que le cerveau tombe dans une zone de quasiment confort mécaniste, si on veut, et ça va apporter beaucoup de calme aux gens qui sont neurodivergents. Puis c'est pas besoin d'être un Lego, là. On parlait des casse-têtes, ça peut être aussi de l'artisanat, des choses comme ça. Il y a plusieurs méthodologies ou moyens d'en arriver là. Il faut trouver la bonne. Ouais, moi, ça donne que ça, c'est la mienne.
Ouais, moi, c'est de l'entretien de maison, réparation de choses dans la maison. On va se cadrer là-dedans. Pas de façon régulière parce que mon plaisir a une durée limitée ou l'effet méditatif a une durée limitée. Mais pour celui-ci, certaines activités d'entretien de la maison arrivent à faire ce genre de choses-là. On en parlait aussi en pré-show, le jogging. Tu sais, tu peux plus en faire, mais et aussi est un élément justement qui est mécanique, que le corps est dedans et arrive à calmer l'esprit et à le centrer sur ça. Mais encore là, puis tu sais, pour refaire le pont avec ce que je disais sur les voyages, quand je fais mon jogging, c'est un parcours. C'est toujours le même parcours, justement pour résoudre l'épuisement, parce que moi, je n'ai pas de décision à prendre, c'est toujours le même parcours. Et j'ai de la frustration, du même type que quand je suis en voyage, quand ce parcours-là est changé parce qu'il y a des choses autour, ou il y a des éléments qui s'y font, ça vient créer, fait que ça vient être dans ça. Là, je m'arrange pour ne pas me mettre dans des circonstances comme ça, mais quand tu ne peux pas le prévoir.
Oui, mais c'est ça. Moi aussi, je vais être longtemps du jogging. Malheureusement, les articulations ne veulent plus, mais... J'étais à la même place. Puis cette espèce d'état où t'as l'impression que t'sais, justement, tu penses à rien. Tu peux juste faire ce que t'as à faire, puis tu penses. La seule chose à laquelle tu penses, c'est ton prochain souffle, ton prochain kilomètre, ou ton prochain. Cet état-là est assez calmant et permet justement de passer à d'autres choses. En plus, que c'est souvent un élément où. Je dirais pas qu'on est complètement déconnecté parce que souvent, tu sais, t'as un appareil électronique, mais t'es en mode j'écoute la musique ou j'écoute un livre audio, puis il n'y a rien d'autre que ça, puis moi qui avance. Ça fait que ça, c'est un élément.
Oui, ça vient rejoindre. Puis un peu ce que je mentionnais, le problème que j'ai par rapport à ça, c'est que je faisais d'autres exercices aussi là, pour ma santé. Là, c'est parce que le but premier, c'est ça. Et quand je suis tombé sur le jogging, je boude littéralement les autres exercices que j'avais, qui sont un peu plus artificiels, c'est-à-dire vélo stationnaire ou des éléments comme ça, puisque ça n'apporte pas la même satisfaction mentale qui va avec le jogging, qui fait juste me recentrer sur moi-même à ce moment-là, où je fais juste. Puis je pense juste à moi, je pense très peu à mon environnement. Se réfléchir à mon environnement demande beaucoup d'énergie aussi. Là, je suis vraiment juste centré sur comment je me sens, est-ce que j'ai mal, faut que je respire, mon prochain pas, et tout s'articule comme ça. Puis bon, plus avec moi, j'écoute des podcasts pendant que je fais mon jogging, sur lequel à certains égards, c'est un bruit de fond plus que de l'absorption pure et dure. Ce n'est que pour fixer mon esprit. Il ne faut pas que mon esprit commence à se retourner vers l'extérieur. Il faut qu'il reste centré sur l'intérieur. Sinon, je perds le bénéfice.
Juste pour m'isoler de l'extérieur quasiment. Ouais. Là, c'est ça. C'est éviter le bruit de l'externe. Comme tu dis, bruit de fond, là, c'est pendant un bout, je ne suis même pas là. Puis là, tout d'un coup, tu te raccroches à quelques paroles, quelques éléments, puis au bout, tu repars. Fait que ouais, je comprends très bien. Puis ben là, maintenant, je le fais autrement. Je le fais justement à travers du vélo un peu plus. J'ai pas le même feeling complètement. Là, c'est pas pas pareil, mais une fois de temps en temps, ouais, puis je suis assez proche. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, les hobbies, bien évidemment, il y en a plusieurs que, tu sais, pour moi, voir un musée, lire un livre, tu sais, ça, c'est des éléments que c'est même plus rendu un hobby. Là, c'est comme, ça fait partie de ma routine quasiment. Donc, je vais m'organiser pour aller voir des expositions, je vais m'organiser pour aller voir des spectacles, des choses comme ça. Là. Fait que ça, c'est comme... Oui, c'est un hobby parce que c'est pas nécessairement d'éléments professionnels, mais ça fait partie suffisamment de ma vie pour dire que c'est pas nécessairement un passe-temps. Là, quand je regarde la puis il y a des phénomènes de mode, là, comme je regarde beaucoup les médias sociaux en ce moment, là, le hiking semble être très, très à la mode. Tu sais, un moment, ça a été le rollerblade, ça a été, les gens changent beaucoup. T'sais, moi, ça, c'est des éléments que je ne vais pas nécessairement embarquer dans les modes. Tu sais, les éléments, je vais peut-être l'essayer, mais bon, je retourne souvent à mes affaires.
Puis d'ailleurs, j'ai évité les modes parce que ça l'attire trop de gens.
Ouais,
aussi. On parlait du hacking notamment, c'est-à-dire que les pistes vont être pleines de gens.
C'est ça.
Et ça va créer de la frustration. La même frustration que j'ai quand j'ai des aéroports, les gens ne marchent pas assez vite. Ben, quand je fais du hiking notamment, ben, je rencontre des gens qui ne marchent pas assez vite. Puis là, tu es contraint, puis là, ça crée de la frustration. Et ça l'enlève tout le bénéfice qui est associé à marcher dans la nature à ce moment-là. Donc, quand les modes sont là, j'essaie d'être à contrario, c'est-à-dire quand c'est plus à la mode de commencer à faire ce qui était précédemment de la mode, surtout qu'il y a des infrastructures qui ont été aménagées pour les gens quand c'était la mode, qui sont encore très bonnes suivant quand ça s'est calmé et que les gens en font moins. Là.
Ouais. Ouais, puis tu sais, pour moi, l'avantage du loisir, c'est que c'est souvent un moment contemplatif. C'est un moment où je suis capable de dire le temps n'a pas d'importance. Moi, j'attache beaucoup d'importance justement au temps. Là, la notion de temps, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Je sais que mon temps est limité. Donc, quand j'ai un moment de détente et ou de loisir et que je suis capable d'avoir quelque chose d'assez contemplatif, je le prends parce que ça me permet d'avoir un moment où ma tête n'est pas partout puis elle n'est pas en train de me prendre l'énergie. Là, donc, ça, c'est encore une fois, c'est difficile pour certaines personnes à comprendre, mais tu sais, moi, juste aller m'asseoir dans un parc, puis tu sais, s'il n'y a pas personne, là, c'est parfait pour moi. Je vais être capable de juste être là, puis c'est quasiment de la méditation. Là. Certains diraient que c'est un élément méditatif. J'ai besoin quand même d'avoir de la stimulation. Cette stimulation-là est porté par l'environnement dans lequel je suis. Musée, je peux me rester pendant de longues minutes devant une toile à regarder petits détails, petits éléments comme ça. C'est un élément contemplatif, méditatif.
Sauf pour les musées, pour moi, c'est plus récent dans ma vie. Avant, ça m'impatientait ce genre de choses-là parce que ça n'allait pas assez vite. Ça, c'est plus jusqu'au milieu de trentaine facilement. Il fallait que ça bouge. J'avais besoin de ça parce que mon esprit peut-être avait été trop enivré de mouvement. Depuis, je suis capable d'arrêter et ça a l'effet bénéfique, comme tu mentionnes, de fixer mon esprit sur quelque chose et que là, je suis plus en train de rouler partout. Mm-hmm. Alors, j'ai l'impression que je gagne un peu de sagesse en vieillissant sur ce genre de choses-là où je suis capable justement de venir rétrécir la portée de ma tête, la portée de ce qui circule dans ma tête à juste le coup de pinceau qui est sur la toile.
Ouais. Puis c'est ce que j'ai appris, moi, c'est d'être capable d'essayer de compartimentaliser. Tu as besoin d'aller vite des fois, là. Parce que sinon, tu vas capoter. Puis il y a d'autres fois où là, c'est que tu dis, OK, il faut que tu te donnes les conditions pour être capable d'être lent. Et ça, c'est pas facile à atteindre. Je le vivais beaucoup à travers le jogging. Maintenant, il faut que je me trouve d'autres façons de faire. Quand t'es dedans, ça fait un grand bien. Puis, tu sais, justement, on parlait de la jauge. Ben, c'est un moyen pour moi d'améliorer ma jauge, tu sais, de la remplir tranquillement. sans qu'il y ait, sans nécessairement que ce soit du repos complet là, ou une déconnexion totale avec mon environnement.
Tout à fait. Puis, puis en tout cas, du moins pour moi, l'enjeu encore maintenant, c'est de voir la jauge se vider ou de savoir quand la jauge elle est réellement vidée. Moi, j'avais peu de signaux, j'étais peu à l'écoute des signaux qui étaient associés à ce genre de choses-là, ce que c'est amélioré avec les années. Fait que quand je sens que la jauge est en train de descendre, là, je parlais dans l'exemple des voyages, j'étais un très bel exemple. Là, j'ai vu, une année, je m'en suis rendu compte, puis on me l'a fait remarquer, que ça fait ça. Fait que là, j'ai fait beaucoup d'introspection pour mieux, puis là, c'est donc très récent. Là. Au moment de l'enregistrement, ça fait un an où j'ai beaucoup plus de perception. Là, je suis capable de voir que je suis dans la deuxième moitié, c'est-à-dire que je suis en train d'arriver vers la fin de ma jauge. Et donc, de soit prendre une activité, comme tu mentionnes, de prendre le temps d'une activité qui permet de réénergiser cette jauge-là, et justement d'être capable de terminer ma journée correctement, et justement d'arriver à ça. Mais pour moi, c'est nouveau de le voir et de ne pas arriver au bout, devenir irritable, puis commencer à piger dans les réserves qu'on ne devrait jamais piger normalement.
Oui, ouais. Ouais, effectivement. Cette jauge-là, je pense qu'en vieillissant, un, t'apprends à la connaître, t'apprends à connaître ses limites, tu sais, comment qu'elle se consomme et comment tu la remplis. Puis c'est probablement l'élément qui vient le plus aider avec l'utilisation des loisirs puis du choix que tu vas faire de tes loisirs, tu sais, puis du temps qui est en dehors du travail. Puis, tu sais, il y a certains rôles aussi, tu sais, du travail qui vont faire en sorte que, bon, moi, j'ai ma jauge va se remplir avec certains éléments dans le travail. Il y en a d'autres où ma jauge va se vider très vite. Donc, c'est d'être capable de jouer avec tout ça puis d'avoir tout ce spectre d'activités-là que tu sais que là, OK, bon, ben là, j'ai du temps. Comment je me sens? Comment je suis actuellement? Si je fais ça, est-ce que je vais aller vider plus ma jauge? Oui ou non? Non, ben, je parle du jeu de rôle, tu sais. Autant que j'adore, autant que je suis super content de voir mes amis, mais c'est une activité sociale. Fait que nécessairement, ça vide. T'sais, ça vide jusqu'à un certain point. T'sais, c'est sûr que ça vide probablement moins que d'autres parce que c'est des gens que je connais, c'est des gens avec qui... Mais il faut que je fasse attention. Parce que si je fais ça pendant trop souvent, trop bac-à-bac, à un moment donné, je vais juste arriver au bout. T'sais, si j'ai un paquet de souper, c'est pour ça le temps des fêtes, souvent, c'est un élément pour moi qui vient vider beaucoup parce que là, t'as plein d'activités, t'as plein de monde que tu vas voir, t'as plein d'affaires, tu sais, puis oups, t'es-tu donné le temps? Moi, je vois, par exemple, les amis qui vont voir la famille là à travers le Québec pendant le temps des fêtes. Je suis comme, OK, c'est de la job faire ça. Puis je me mets à leur place, je me dis, je serais complètement épuisé s'il n'y a pas ces espaces-là de moments où je suis capable de juste rien faire. La conduite automobile, pour moi, c'est un élément où je suis capable de relaxer si je n'ai pas personne dans l'auto. Fait que là, c'est sûr que tu es avec ta blonde, tes enfants en arrière, ben là... pour moi, ce ne serait pas un élément où j'arriverais à relaxer.
c'est un peu plus difficile. Conduite urbaine, moi, je ne relaxe pas beaucoup en conduite urbaine. Ça je dois dire. Surtout ces temps-ci, là, je suis souvent à Montréal. Ce faisant, c'est pas super agréable de conduire dans ces conditions-là. Faire de la grande route, oui, ça va aller. Mais encore là, je suis le pilote automatique. C'est-à-dire que j'ai le cruise control, je ne réfléchis pas beaucoup. Je veux juste m'assurer que la circulation autour de moi me permet d'être dans cet état-là, puis je fais juste me laisser glisser pendant ce genre de choses-là. Autrement, non. Puis moi, comme tu mentionnes, la sagesse aidant, c'est que là, je m'arrange d'avoir, j'aime beaucoup le terme de voyage, pour les voyages, les pivots nécessaires ou les zones de recharge ou les zones de hobby, puis c'est ça, c'est là aussi le deuxième, les loisirs de cet élément-là où il ne contient pas la charge professionnel, c'est-à-dire l'exigence de performance et la charge, à certains égards, personnelle qui, puis là, je mentionnais dans certains égards, en voyage, ça devient très apparent. Mais la pression sociale a un impact énergétique très fort chez moi. Ça va jouer. Donc, d'être dans des contextes comme ça, même personnel, va venir gruger cette énergie-là qui, pour certaines autres personnes, vont recharger. Mais moi, c'est juste, c'est non. C'est pas comme ça.
Je comprends. Puis, il y a la question, tu sais, il y a beaucoup de loisirs qui vont se faire avec des gens, tu sais. Puis là, c'est de préparer le terrain aussi. Parce que tu sais que passer par exemple un certain nombre d'heures, là, tu vas commencer à tirer de la patte. Ouais. Il dit, regarde, ben moi, je donne un exemple, faire un voyage avec des gens, tu sais, des amis. Et là, tu dis, regarde, moi, ben, je vais faire ça, puis après ça, je ne ferai pas ça. Je n'irai pas souper avec vous autres, tu sais, parce que je vais avoir besoin d'être tout seul un petit bout. C'est comme, ce qui se passe, tu sais. Ouais. T'es en maudit? Non. C'est juste parce que je veux être pas en maudit le lendemain puis vous donner une bonne journée. J'ai besoin de ça.
Ouais. Ça me ferait parce que je suis dans la planification d'un voyage pour cet été avec mes enfants. Je vais là seul avec mes enfants. Puis là, ils veulent faire plein de choses. Puis je leur dis, alors c'est pendant 7 jours. On va dans un autre pays. Et c'est maximum 3 grosses activités pendant les 7 jours. Mm. Pas plus. Plus que ça, ça va devenir désagréable. On va être capable de remplir sur place là, avec 6 000 d'improvisations, mais de vivre localement dans la ville ou les villes qu'on va avoir choisies va être beaucoup plus énergisant pour moi minimalement. Puis mes enfants ont des profils qui sont pas très loin des miens, fait que ça va aussi les rendre plus agréables en voyage. Ouais. À certains égards, je me planifie aussi des choses pour moi que ce soit agréable, là, que c'est agréable pour tout le monde. Et d'être juste sur place, de vivre la vie locale pour moi, et ça vient m'énergiser juste de d'aborder la beauté des monuments, des édifices, la culture qu'il y a là, va m'apporter beaucoup, beaucoup d'énergie dans ces conditions-là. Donc, je planifie les choses justement pour 3 grosses activités qui vont quand même demander une bonne dose d'énergie avec beaucoup de choses autour pour laisser le temps de recharger, mais qui sont quand même pas enfermées dans ma chambre d'hôtel, qui sont quand même dans une zone où je sais que je vais récupérer, mais je ne serai pas en contact avec des gens beaucoup. Je vais être dans des zones de contemplation, si on veut, là, de juste d'admirer le paysage, d'admirer l'architecture, d'admirer... comment les gens vivent aussi. J'aime ça, faire ce genre de choses. Juste de regarder, comme tu disais, c'est un banc de parc, c'est un bel exemple. Mais c'est un, dans l'absolu, c'est un drôle de hobby, mais tu sais, juste d'être assis. Puis de regarder comment le mouvement s'exécute autour, comment le balai des gens se fait, sans analyser, sans rien, sans se demander qu'est-ce qui se passe, mais juste de façon comme un simple spectateur à la télévision, qui regarde la télévision. Mais au lieu de regarder la télévision, je regarde la vraie vie, la nature, les choses, ces éléments-là.
Puis ça, c'est des éléments dans lesquels aussi j'ai eu beaucoup d'excellentes idées. Pour des articles, pour des écrits que j'ai faits, être capable de prendre le moment de regarder les gens, comment ils vivent, comment ils fonctionnent. Tu sais, on c'est malheureux, puis tu sais, moi, je me définis comme étant un intellectuel. Souvent, je fais la blague que tu sais, mon corps, essentiellement, existe principalement pour transporter mon cerveau, là, mais c'est pas mal ça.
Oui.
Fait que... prendre ce moment-là de réfléchir, dire OK, comment ça se passe? Comment je vois ça? Et ça, c'est un luxe. C'est malheureux, mais on le fait plus. Et moi, je pense que c'est un des problèmes qu'on a socialement. C'est-à-dire que les gens n'ont plus ce luxe d'être capable de dire je vais juste réfléchir à quelque chose pendant un moment. Puis, tu sais, essayer de te faire du sens d'une situation. Même les professeurs d'université sont dans un système qui fait en sorte qu'ils n'ont plus le temps de le faire de manière adéquate, à mon avis. Puis, c'est une des raisons qui m'a sorti du milieu académique. C'est que c'était le publish or perish. Tu es tout le temps en train de faire des publications. Parce que tu te donnes le temps de réfléchir. Pas tout le temps. Fait que, moi, un espace de loisir, mais va aller. Souvent, juste, c'est ça. C'est cette espèce d'élément contemplatif, observateur. Tu regardes le moment, puis tu regardes comment les gens fonctionnent. Puis c'est à partir de là que... Moi, j'ai fait ma carrière avec ça.
Je suis d'accord. Puis de toute façon, plus jeune, j'avais l'énergie pour... C'est ça, puis ça revient toujours aussi. Puis on vieillit, là. On est deux vieux hommes blancs.
Ouais.
mais c'est aussi la sagesse, mais aussi le changement de l'énergie qui se fait avec les années. En fait, quand j'étais jeune, j'étais capable de compenser, parce que j'avais tellement d'énergie, que j'étais capable de compenser sans que ça ait des pénalités. Mm-hmm. Plus j'ai, moins je suis capable de compenser parce que j'ai plus la même dose d'énergie. Puis c'est normal, c'est comme ça la vie. Hein?
Mm-hmm.
Puis là, c'est là que j'ai dû apprendre à faire des choses, justement à me poser, à prendre le temps justement de regarder les choses autrement, de regarder, de prendre ces pauses-là. Puis justement, je déplore un peu. Puis d'un point de vue professionnel, ça m'est arrivé assez récemment qu'il y avait comme une personne qui voulait comme mécaniser à outrance, puis tu parlais du milieu académique, mais c'était un peu dans un milieu similaire, où une job plus intellectuelle, mais voulait la mécaniser. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Une job intellectuelle ne peut pas se mécaniser parce qu'elle est naturellement capricieuse du fonctionnement de nos cerveaux. Puis c'est comme ça pour tous les humains. Là. On n'est pas, je me considère pas comme un flocon de neige, comme spécial, parce que ma tête ne réagit pas sur commande. Il y a un seuil, puis je le faisais quand j'étais plus jeune, mais il y a un seuil que tu peux faire ça, mais ça ne marche pas tout le temps. Et ce n'est pas les meilleures idées qui émergent, c'est pas le meilleur de soi-même qui émerge non plus. Pour arriver avec de la vraie création, de la vraie innovation. D'ailleurs, je vous parlais d'innovation. Je me suis plaint sur LinkedIn il n'y a pas si longtemps, là, si on parle au moment de l'enregistrement, sur le fait qu'il n'y avait plus d'innovation réellement en cybersécurité, notamment depuis les 30 dernières années, on n'a pas vraiment d'innovation. On reste avec les mêmes paradigmes qu'il y a 30 ans.
Mm-hmm.
Que les gens ont inventé des paradigmes intéressants il y a 30 ans, puis ils nous ont fait ça, mais depuis, on fait juste des itérations sur ces paradigmes-là. On n'a pas fait. C'est quoi le problème? C'est-tu parce qu'on a décidé de mécaniser ou on ne prend plus le temps, puis ça nous crée une chose? Mais on est vraiment là, on n'est plus dans l'espace réflectif, philosophique, si on veut, sur l'espace de juste laisser philosopher un peu les différents éléments. Ces conversations qui sont un peu énergivores, mais quand même qui permettent justement d'amener ça, sont beaucoup moins axées sur réinventer le monde. Ou c'est peut-être parce que j'ai changé de réseau social depuis. Mais j'ai beaucoup moins de réinvention du monde que j'avais quand j'étais dans ma vingtaine, par exemple.
Mmh.
Où on n'est plus dans cet espace-là de ça. Fait qu'il n'y a plus ce ralentissement-là. Parce que quand on fait ça, on est nécessairement ralenti. On n'est pas en train d'échafauder des plans sérieux. On est dans le plaisir, dans la détente, dans la... tellement comme ça. Puis pour moi, c'est pas énergivore ça, parce qu'on n'est pas dans un moment sérieux. Tu parlais des jeux de rôle, c'est un peu ça aussi, c'est d'être capable de se projeter ailleurs, d'être capable d'être dans ces éléments-là sans que ça devienne énergivore, sans que ça devienne du travail, mais que ça devienne un hobby ou un moment de détente, d'être capable de basculer. Puis pour moi, ça n'a pas été nécessairement facile de comprendre qu'il y avait... je suis d'ailleurs de me ressourcer là-dedans.
Mm-hmm.
Tu sors avec plein de nouvelles idées puis plein d'énergie. Contrairement à une conversation sociale plus mondaine où elle est drainante, mais juste drainante, tout court. Sans apport énergétique ou d'idées ou de quoi que ce soit.
Oui. Ouais, puis la question du loisir vient justement souvent pour moi, c'est une raison d'essayer de retourner dans mon enfant intérieur créateur, dans mon enfant imaginatif, tu sais, qui va me permettre justement de voir autre chose, puis de relire le monde autour de moi. Puis c'est chose qu'effectivement, je te dirais que dans mon espace de travail, dans majoritairement des cas, on dit « Ah oui, l'innovation, c'est important pour nous », mais du moment que tu veux commencer à amener à dire « Ouais, mais les choses qu'on fait, c'est-tu la meilleure façon? Là, on n'a pas le temps de faire ça. » Ben, pas le temps de faire ça. Après ça, travaille en cabochon, tu continues de travailler en cabochon.
Oui, ben c'est ça. Ça, on a un peu perdu le focus sur l'innovation. Puis comment l'innovation se génère d'ailleurs, c'est pas par des moyens mécaniques. Ben, oui, puis non, mais de façon organisationnelle, c'est pas par des moyens mécaniques. Il faut laisser le fameux 20% que Google donne dans des projets à côté. Qui a fait tant de publicité des années 90, pas 90, des années 2000, ben c'était ça, c'était de laisser l'espace aux gens d'innover des choses nouvelles de façon payée par l'entreprise et justement de favoriser cette culture d'innovation. Puis finalement, maintenant, on n'a absolument plus, on est dans une culture de faire juste récolter ce qui est possible, on met le monde jusqu'au bout, puis ça, derrière, puis là, ça nous ramène au fait, je veux reboucler sur les hobbies, c'est le fail-safe, pour des neurodivergents, d'être capable d'aller récupérer ça, même que parce que le travail ne l'offre plus maintenant, cette zone-là, malheureusement.
Exact.
Donc, on va conclure sur ça. sur cette zone-là. Ça a donné l'idée de peut-être de parler d'innovation une prochaine fois, parce que je pense que c'est un sujet en somme toute intéressant, mm-hmm. dans lequel je pense que les neurodivergents ont le potentiel d'exceller, mais ils ne sont pas dans les meilleures dispositions pour le faire. Sur ça, je te remercie encore de cette conversation. Merci. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus moi qui ai parlé. Là. J'étais avec une histoire de voyage, tout ça.
Ah, mais c'est correct.
C'était très drôle, puis j'ai très, très chouette. Toujours une rencontre plaisante, justement, d'échanger ces idées-là. Puis, comme je pense que tu le mentionnais hors d'onde, c'est un peu aussi en dehors de nos zones de confort respectives de s'exprimer comme ça. Ça demande certainement un certain effort. Moi, j'allais manger du sucre après, justement, pour aller réénergiser l'harcèlement, là, parce que c'est enrichissant, puis c'est très utile. Là, peut-être que vous n'êtes pas rendu, pour les auditeurs, vous n'êtes pas rendu à la fin, mais si vous avez des idées d'autres sujets comme ça que vous voudriez qu'on explore, lever la main. Je sais que c'est pas très populaire chez les neurodivergents de lever la main pour exprimer, mais de façon privée, si vous voulez faire ce genre de choses, ça serait bienvenu justement pour nous aider à continuer à explorer ce très beau sujet. Sur ça, à la prochaine. We're gonna go.